lieux de l'histoire en Pays de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je vais vous faire découvrir les hauts lieux de l'histoire des Pays de Savoie. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des Pays de Savoie et notamment la culture, l'histoire, le patrimoine et le terroir, mais aussi de transmettre et de sauvegarder l'identité savoyarde. Aujourd'hui, ce lieu dont je vais vous parler est Annemasse et sa statue de la liberté. Aux portes de Genève, Annemasse est au cœur de la deuxième agglomération de Haute-Savoie après celle d'Annecy. La cité, qui a pour devise « agir plutôt que parler », dispose d'un casino, de nombreux espaces verts, de parcs ainsi que d'un monument singulier. En effet, sur la place de l'Hôtel de Ville, posée sur son piédestal, une statue en bronze montre un homme assis, vêtu de haillons, le regard suppliant, les mains jointes et tordues de douleur. Cette sculpture représente Michel Servet, théologien espagnol, naturalisé français, helléniste, géographe, médecin, victime de l'intolérance, rappelle aux passants, aux touristes, que dans l'Europe chrétienne, de jadis, les individus sont morts sur le bûcher du seul fait de soutenir une opinion contestant le dogme établi. Annemasse célèbre ainsi l'indépendance d'esprit d'un homme d'exception, mort à Genève en 1553, dans des conditions atroces. Au début du XXe siècle, un comité genevois de libres penseurs fait ériger une statue en l'honneur de cet humanisme livré aux flammes, mais les autorités locales refusent de la mettre en place au motif qu'un métier expiatoire a déjà été posé à l'emplacement du bûcher où périt ce non-conformiste. Finalement, la sculpture est offerte à la ville d'Annemasse qui procède à son inauguration au cours de l'année 1908. Michel Servet est né dans le royaume d'Aragon en 1511, d'un père notaire et d'une mère venue du Midi de la France. Faisant preuve d'une curiosité intellectuelle insatiable ainsi que d'une grande ouverture d'esprit, le jeune homme effectue de brillantes études à l'université de Saragosse, puis à la faculté de droit de Toulouse. Fort pieux, il se passionne pour la théologie, mais son esprit critique le pousse à rêver d'un christianisme rendu à sa pureté d'origine, écartant toute forme de hiérarchie, d'un retour aux Écritures, d'une église où les pauvres auraient toute leur place. Il aborde en outre les persécutions contre les Juifs. Intuitif, il se pose donc très jeune en lanceur de défis. Secrétaire du confesseur de Charles Quint, il assiste en 1530 à Bologne au couronnement du monarque Clément VII et découvre à cette occasion médusé le faste pontifical à 100 lieues de l'humilité chrétienne. Il manifeste son indignation et se fait bien sûr des tas d'ennemis. Le voici à Bâle, puis à Strasbourg, où il rencontre en catimini les protestants, des réformateurs, tandis qu'un éditeur accepte de publier son premier livre dans lequel il remet en cause le dogme de la Trinité, celui d'un Dieu unique, mais en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est illico traité d'hérétique et son ouvrage fait l'objet d'une interdiction. De plus, isolé, il prend le pseudonyme de Michel de Villeneuve. Quand il arrive à Lyon, où il exerce le métier de correcteur d'imprimerie, il rédige un traité de géographie plein d'humour. La Hongrie produit le bétail, la Bavière des cochons, la Franconie des oignons, des navets et de la réglisse, la Souabe des catins, la Bohême des hérétiques, la Bavière encore des voleurs, la Suisse des bourreaux et des bergers, et toute l'Allemagne des gloutons et des ivrognes. Infatigable, il écrit une Bible en 7 volumes, puis un traité des sirops, sous un faux nom. On ne lui connaît pas d'aventure féminine. Il gagne ensuite Paris, il obtient le titre de docteur en médecine, soigne les pauvres et découvre, une première en Europe, la circulation pulmonaire du sang. Une nouvelle fois, il s'attire les foudres des autorités religieuses qui brûlent un exemplaire de son mémoire peu de temps après son impression. Pour l'Église, cet individu est un marginal, nous dirions aujourd'hui un électron libre, dangereux. En 1546, il échange des dizaines de lettres avec Jean Calvin, mais le réformateur protestant, résidant à Genève, met vite un terme à leur relation. Michel de Villeneuve s'entête et publie à compte d'auteur, 6 ans plus tard, la restitution du christianisme. Son opposition au baptême de leurs très jeunes enfants ne passe pas aux yeux des inquisiteurs de France et d'Espagne, son pays natal où il n'a jamais remis les pieds. Traqué, le théologien subversif se cache à Vienne, mais on découvre son identité. On lui tend un piège, on l'arrête en avril 1553. Cependant, entre 2 interrogatoires, il s'évade de prison. Furibonde, les autorités catholiques le condamnent à mort par contumace et le bourreau brûle en place publique son effigie en bois. Michel Servet est un fugitif tissant son destin comme l'araignée tisse sa toile. Il veut gagner l'Italie, mais son obstination le pousse à faire un détour par Genève, afin de confronter ses idées avec celles de Calvin. Sans doute est-il passé par Annemasse ou les environs. Confiant et sûr de lui, il entre dans un temple écouter la prêche des rénovateurs genevois. À sa sortie, il est arrêté et jeté dans un cachot sinistre, interrogé par les réformateurs, dont Calvin, impitoyable, accusé d'hérésie, condamné à être enchaîné au pilori et brûlé vif dans les livres. Le 27 octobre 1553, le malheureux agonise sur le bûcher dans d'atroces douleurs. La nuit précédente, il a plu et le bois humide peine à se consumer. En 1942, la statue de Michel Servet est enlevée de la place de l'hôtel de ville d'Annemasse, puis fondue par le régime de Vichy. Mais en 1956, sous la présidence d'honneur d'Édouard Herriot, un comité se forme pour réfléchir un moment à cet apôtre de la libre croyance. Une souscription est lancée. 4 ans plus tard, la sculpture réapparaît à l'identique devant l'entrée du parc municipal. Puis, en 1988, elle retrouve sa place initiale près de la mairie. Malgré les vicissitudes de l'histoire, Annemasse peut s'enorgueillir d'avoir sa statue de la liberté. Cette chronique est tirée d'un livre de Pierre Hoffmann, « Au lieu de l'histoire en pays de Savoie ». Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et surtout, à une prochaine fois.